Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont
bouillé. J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spézelles.
Oh, mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Ah, là, c'est bon.
À part les tueurs en série et les abonnés à Valeurs Actuelles, qui a une âme assez noire pour ne pas aimer le chocolat? Le chocolat, c'est un peu une monnaie d'échange, comme une devise. C'est un moyen d'acheter un peu de bonne humeur. Quand ça ne va pas fort, quand quelque chose vous frustre, quand il fait moche dehors et qu'il y a trop de monde dans le métro, un carré de chocolat et tout va déjà un peu mieux. C'est toujours ça que votre voisin de strapontin qui écarte ses jambes n'aura pas. Le chocolat, c'est un peu aussi comme le vin et le fromage. Tout le monde a ses critères. J'aime particulièrement observer comment mon goût pour cet aliment a évolué avec le temps. Plus jeune, j'aimais le chocolat au lait. Aujourd'hui, je l'aime surtout très noir. D'ailleurs, je crois que je suis devenue plus mature d'un coup d'un seul, pas après la puberté, non, mais l'année où je me suis mise à acheter des croissants plutôt que des pains au chocolat, soit la même année où j'ai arrêté de sucrer mon allongé, qui est aussi la même année où j'ai arrêté de chercher le sucré dans une tablette de chocolat, mais plutôt son amertume. Comment parler de chocolat sans d'abord parler de cacao, cette matière à partir de laquelle on crée le premier? En deuxième partie d'épisode, je suis allée à Marseille à la rencontre de mon amie Marie Vial, qui travaille actuellement chez Carlotta Ways, un restaurant de cuisine végétarienne. Il y a quelque temps, Marie, dont la spécialité est la pâtisserie, est allée en Colombie pour y suivre un stage autour du cacao. Pour elle, ce voyage n'a pas juste été l'occasion d'en apprendre plus sur son ingrédient préféré, c'est aussi un voyage au cours duquel elle est sortie de sa zone de confort en partant seule.
Oui, j'ai beaucoup pleuré. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas voyagé seule.
Mais d'abord, j'ai reçu Géraldine Pellet, chercheuse en géographie humaine spécialisée en paysage, qui a écrit une thèse sur le goût et le paysage comme expérience sensible de l'espace. Géraldine a publié récemment un ouvrage sur le chocolat. Le chocolat, pas simplement comme chose comestible, mais aussi comme fenêtre pour analyser les territoires. On a commencé par demander à l'universitaire ce qu'est la géographie humaine et ce que le chocolat peut bien avoir à faire là-dedans.
Alors c'est une géographie qui pose la question du rapport des hommes entre eux, du rapport des hommes avec leur environnement matériel et symbolique. Et on peut aborder justement cette question à travers différents angles de vue et différents objets. Et c'est ce que j'ai choisi de mener en thèse à travers la question du culinaire et pas seulement de l'alimentation ou de la nourriture. Et le chocolat aussi se prête à merveille à cette réflexion et cette approche, puisque derrière cet objet-là, en fait, il y a ce qu'on appelle une construction paysagère. À savoir, quand on parle de paysage, en fait, on parle à la fois de l'objet et du regard qui est porté sur cet objet. Et du fait, ce qu'on met en valeur, c'est de dire justement que le fait même qu'une matière soit sélectionnée dans notre environnement, on pourrait se nourrir d'un tas de matières disponibles, mais on ne sélectionne que celles qui sont culturellement bonnes à manger dans notre, dans notre culture et par rapport à nos rapports sociaux. Et le chocolat, la question du chocolat et du cacao se prêtait bien à cette réflexion pour mettre en valeur justement les différentes cultures qui permettent de créer certaines formes de cacao ou de chocolat et d'arriver jusqu'à nous en fait.
Et tout le monde a un certain rapport avec le chocolat. Certains en parlent comme d'une addiction, oui. D'autres aiment un peu, moyennement. Mais en tout cas, on a tous un avis sur le chocolat.
Souvent, en fait, on ne perçoit que l'arôme cacao et seulement le sucre. Et dès qu'on découvre cet univers qui est assez proche de celui des vins aussi, on se rend compte qu'il y a un tas d'arômes qui émergent au-delà de ce premier arôme de chocolat. Donc, quand vous parlez justement de l'addiction de pratiquement tout un chacun, c'est vrai que ça plaît de 7 ans à 77 ans le chocolat. C'est souvent un attachement à cet arôme cacao et au sucre et pas forcément à toute la complexité aromatique que peut offrir une tablette de chocolat.
Parce qu'il y a aussi l'amertume du chocolat qui est un univers hyper intéressant aussi à exploiter. L'amertume, finalement, dans notre société, on en veut assez peu de ce goût amer, mais dans certaines tablettes de chocolat, justement, ce qu'on va aimer, c'est précisément l'amertume.
Oui, alors l'amertume, en fait, c'est l'une des cinq saveurs fondamentales que vous allez retrouver dans n'importe quel chocolat. C'est-à-dire qu'au-delà, quand vous goûtez au chocolat, quelle qu'en soit l'origine, vous avez toujours comme arôme l'amer, l'arôme cacao, l'astringent et le sucré. Et donc cette amertume, ensuite, dans le travail de la tablette et la fabrication du chocolat, va être plus ou moins compensée par l'ajout de sucre ou de beurre de cacao. Donc vous allez plus ou moins la sentir. Donc ça, c'est une question de recette. Et c'est une question aussi d'origine des fèves, parce que certaines fèves vont porter ce qu'on appelle des arômes de constitution qui sont présents à l'état potentiel dans la fève, quand vous la goûtez crue, vont porter plus ou moins d'amertume potentiellement. Et ça, c'est tout le travail de l'artisan et du chocolatier, de jouer sur différents paramètres pour essayer de doser la part de cette amertume.
Et comment on peut s'assurer de choisir une bonne tablette? Quand on regarde par exemple les ingrédients d'une tablette de chocolat, est-ce qu'il faut se méfier de ces tablettes qui indiquent pour premier ingrédient le sucre?
Ah oui.
Puisqu'il me semble que dans les ingrédients, on est obligé de placer l'ingrédient le plus présent dans un produit. Donc il vaut mieux que ça commence par cacao et ensuite éventuellement sucre. Quand ça commence par sucre, il me semble que c'est très mauvais signe.
Ça veut dire que l'ingrédient principal est en plus grande quantité est le sucre. Il faut savoir, dans une tablette de chocolat, on prend un exemple, une tablette à 80%. En fait, dans ces 80%, le 80% est composé d'un mélange de masse de cacao et de beurre de cacao. C'est très difficile d'en connaître les proportions. Là, on ne peut pas savoir. Et ça veut dire que ce qui reste, le 20%, c'est du sucre. Et donc, si vous voyez autre chose que masse de cacao, sucre et parfois arôme vanille, c'est pas très bon signe.
Et le chocolat blanc dans tout ça?
Alors, le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao avec du lait et du sucre. Et on peut trouver de très bons chocolats blancs aussi, parce que le gras transmet beaucoup de goût. Et j'ai fait cette expérience de travailler avec un artisan chocolatier qui m'a fait découvrir aussi différentes spécificités de différentes origines, rien qu'en goûtant le beurre de cacao. Donc le chocolat blanc n'est pas mauvais en soi, tout comme le chocolat au lait n'est pas mauvais en soi. C'est toujours la même question. Si on est sur une matière première de qualité, c'est une expérience gustative intéressante. Mais il faut savoir que dans le chocolat blanc, il n'y a pas de masse de cacao. D'où c'est du pur beurre et du lait.
Voilà. On peut aussi parler de l'utilisation du chocolat dans la cuisine.
Oui.
Lors d'un atelier de cuisine, on nous a fait faire du cabillaud avec une sauce au chocolat noir.
Oui.
Et des écorces d'orange, il me semble. C'était absolument délicieux.
Oui, ça c'est quelque chose qui... Enfin, à l'origine, le chocolat, comme je vous l'ai dit, n'était pas utilisé dans sa version sucrée. Et justement, le chocolat dans les sauces, enfin, permet... c'est un liant et c'est aussi un exhausteur de goût pour d'autres saveurs. Donc oui, on est en train de développer le chocolat version salée et c'est une très bonne chose.
Donc ça veut dire que dans ces sauces-là, c'est pas le côté sucré qu'on va ressentir, mais les autres. Et alors pour l'écriture de cet ouvrage qui s'appelle Chocolat avec un S au bout, entre parenthèses le S, vous avez rencontré de très grands chocolatiers. Donc poser la question du cacao, c'est soulever plein de fils en fait.
Ce qui est passionnant avec cet objet chocolat, c'est qu'on peut réfléchir à diverses échelles temporelles et géographiques. Parce que à partir de cette problématique de la tablette que vous avez posée sur votre table, vous posez la question de savoir s'il y a différentes origines déjà, donc des différents pays producteurs, de la spécificité des différentes variétés de cacao, parce qu'il existe aussi, trois grandes familles de cacaoyers associées justement à des caractéristiques organoleptiques spécifiques. Et chaque variété de cacaoyer plantée dans un type de sol va développer aussi certaines spécificités. Et on a une vraie cartographie gustative déjà du monde. Et ensuite, derrière cette cartographie actuelle, on a aussi une histoire de développement depuis les origines aux confins du Venezuela, où on a donc c'est le berceau de la culture du cacao, jusqu'au développement en Indonésie, au Vietnam, à Madagascar, ce qui est aujourd'hui le plus gros bastion de production du cacao. Sur le continent africain, parce que le continent africain en a produit aujourd'hui 84% de la production mondiale de cacao, ce qui est énorme. Et finalement, on voit comment les rapports de production et de force se sont complètement inversés au fil de l'histoire du cacao. Voilà, donc à partir de ce petit objet, on a voilà, toute cette dimension culturelle, historique. Et dans l'évolution dans le temps aussi, on peut suivre l'évolution du goût. Puisqu'originairement, quand les Espagnols découvrent le chocolat quand ils débarquent en Amérique, enfin au nord de l'Amérique du Sud, le chocolat, donc déjà, les fèves de cacao sont une monnaie. Oui. Voilà, sont une monnaie et le cacao est travaillé. Enfin, les fèves sont dans les civilisations précolombiennes étaient tout juste grillées et réduites en pâte et mélangées à de l'eau et des épices. Et cette boisson était associée à un tas de moments sacrés et rituels dans les sociétés précolombiennes. Et une fois qu'elles sont passées, en fait, quand on a déplacé ce petit objet, c'est le même produit, c'est le même objet, une fève de cacao. Voilà, elle traverse l'océan et arrivée chez nous, on les mêle à du sucre, on les inscrit dans un autre contexte qui est plutôt celui de la gourmandise, du divertissement, et on passe voilà du sacré au profane et à un autre usage. Donc c'est intéressant de voir comment à partir de ce seul mot et de ce seul objet, on met en question notre rapport à l'environnement qui pouvait être sacré dans certaines sociétés et qui aujourd'hui, là avec les dérives actuelles consuméristes, on va dire, d'une grande partie de la production de cacao, où on est sur un autre rapport à l'environnement qui est plutôt destructeur. Mon dernier livre, Chocolat, pose vraiment la question de la dégustation et du sens de la dégustation. Et sur cette question de l'attachement au monde à travers l'attachement à une matière. Et sur, c'est un petit peu l'exercice d'une suspension, c'est de, au lieu de consommer, on prend le temps d'observer et de voir qu'on déguste un chocolat comme on peut déguster un grand vin. Et finalement, on suit quasiment le même chemin et le même parcours que pour la dégustation d'un vin. On observe, on commence par le regard, ensuite par le nez, ensuite par la bouche et ensuite à nouveau par le nez. Voilà, parce qu'il faut du temps pour déguster, apprécier pleinement toutes les saveurs d'un chocolat, depuis l'aspect qui doit être brillant, la casse qui doit être assez nette. C'est un critère d'appréciation d'un bon ou d'un mauvais chocolat.
Ah oui.
Et ensuite, une fois que la casse est nette, vous avez cette première sensation olfactive, où là, les premiers arômes en fait, sont captés par le nez, par voie nasale. Donc là, vous avez déjà capté toutes les substances volatiles. Et vous allez essayer de mettre des mots sur différents parfums. Et ensuite, une fois que vous commencez à déguster, que vous avez le chocolat en bouche, là, vous allez pouvoir prendre le temps de mesurer la texture. Est-ce qu'elle est granuleuse? Est-ce qu'elle est fondante? Est-ce qu'elle est plutôt cassante? Donc ça, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, au contact de la bouche et de la chaleur, d'autres arômes, en fait, explosent en bouche. Qui ne sont pas identifiables avant par simple voie nasale. Et là, quand je parlais du retour des arômes, il y a d'autres arômes qui sont perceptibles uniquement dans cette dernière phase, par voie rétronasale, en fait. Si vous bouchez le nez, par exemple, vous n'allez pas les sentir. Voilà, une fois que vous avez le chocolat en bouche, vous allez pouvoir dire s'il est plutôt fleuri, s'il est plutôt fruité. Une fois cette phase-là passée, vous allez essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Quand il est fleuri, est-ce que c'est plutôt des notes de jasmin? Est-ce que c'est plutôt des notes autres? S'il est végétal, est-ce que c'est des notes d'olive verte? Est-ce que c'est plutôt d'autres notes? Ça peut être... si vous êtes sur des arômes de fruits, est-ce que c'est des fruits jaunes, des fruits rouges? Voilà, pour s'orienter dans les différentes origines de chocolat, puisque chaque pays aussi a ses spécificités. Si vous allez, par exemple, si vous prenez des Madagascar, en général, vous avez plutôt des arômes de fruits rouges. Si vous prenez une origine Vietnam, on va plus être sur des arômes de sous-bois ou citronnés. Et ce sont pas des arômes qui ont été rajoutés dans la fabrication de la tablette, c'est vraiment constitutif de l'origine et de la fève.
Comme pour le vin, c'est le terroir qui s'exprime à travers le produit.
Exactement. C'est vrai qu'on peut faire la comparaison. Il est question à la fois de terroir et de cépage. Et finalement, les cépages, tout comme il y a des qualités de plants et de vignes, en fait, on peut parler des différentes variétés de cacaoyers. Criollo, Forastero, Trinitario sont les trois grandes familles, mais il y a des recherches récentes qui ont été effectuées par des agronomes qui en fait distinguent finalement à partir de ces trois grandes familles, 10 grandes familles et ensuite une centaine de variétés qui sont le fruit justement des croisements de variétés plus ou moins adaptées au sol. Et donc il y a cette notion qui peut être comparée à la notion de cépage et ensuite la question des terroirs et des origines aussi. puisque oui. telle qualité de sol ne va pas... voilà, si vous prenez exactement... Par exemple, il y a des variétés criollo qui ont été implantées en Asie, qui venaient de la région de Maracaibo, donc du berceau originaire du cacao, et ça donne des fèves qui n'ont pas tout à fait le même goût. Donc c'est vraiment un savant mélange. C'est pour ça que je vous disais que le chocolat est vraiment un objet voilà de culture et pose la question du paysage, parce qu'on est à la fois sur voilà des problématiques très biophysiques avec des voilà des choses qu'on peut mesurer de manière objective objectivable, et puis voilà des savoir-faire, des données humaines qui vont faire qu'on va travailler la fève de telle manière et pouvoir lui faire exprimer certains arômes.
Et vous, quelle est l'histoire de votre rencontre avec l'univers du chocolat? Quel est votre rapport au chocolat? Oui.
Alors il est quotidien, je dois manger une bonne demi-plaquette, voire une plaquette par jour depuis mes 5 ans, donc voilà, ça m'a fait grandir.
Ce sujet n'est pas arrivé par hasard dans votre travail.
Voilà, oui, je pense que j'ai dû peut-être en manger la première fois quand j'avais 4 ou 5 ans, ou peut-être même un peu plus tôt, j'ai jamais arrêté. Mais j'ai vraiment découvert en fait la question des origines et finalement les mondes des chocolats il y a 8 ans à peu près. Et j'ai eu la chance, moi, de rentrer en univers du chocolat par hasard. Hein. J'avais plein de tablettes d'origine devant moi, et j'ai goûté le fameux Chuao, qui est l'un des plus des plus fins du point de vue aromatique. Et voilà, cette dégustation a éveillé ma curiosité, puisque là j'ai commencé à sentir autre chose que l'arôme cacao. Et mon premier réflexe a été de demander à la personne qui m'a fait découvrir ça, enfin, le contexte dans lequel j'ai découvert, quels arômes avaient été ajoutés dans la recette de la tablette de chocolat. Mmh. Et là, j'ai appris qu'aucun arôme avait été rajouté, aucun colorant, aucun arôme artificiel, donc que c'était constitutif de la fève. Mmh. Et à partir de là, j'ai commencé à goûter, j'ai confronté mon goût et j'ai essayé de comprendre pourquoi telle origine avait plutôt des arômes de fruits rouges, ou telle autre plutôt des arômes fumés. J'ai goûté des chocolats aussi qui ont un goût de tabac. Une fois qu'on a avalé, ce qui prédomine, c'est ces arômes de tabac en allonge et en fin de bouche. C'est assez troublant. Voilà, donc le parcours d'un amoureux ou d'une amoureuse du chocolat, c'est de goûter beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu comme la lecture, hein. Plus vous lisez, plus vous arrivez à situer différents styles, comme en musique aussi. Vous arrivez à construire votre paysage un petit peu gustatif, vous avez des repères. Et ensuite, la deuxième phase, c'est d'aller voir comment on le fabrique.
Cette deuxième étape dont parle Géraldine Pellet, c'est finalement celle qu'a vue de très près Marie Vial. Marie est une amie que je connais depuis bientôt 10 ans. Avant de s'installer dans le sud, elle habitait à Bruxelles, où elle a tenu pendant un temps avec son copain Sullivan, un plus vieil ami encore, la Grainerie, une épicerie au pois et un café proposant une carte végétalienne. Niveau pâtisserie, Marie a vraiment des doigts de fée. La tarte au cacao cru est à mon sens l'une de ses meilleures recettes. Avec sa ganache de cacao cru en poudre, beurre de cacao cru, grues de cacao et son sarrasin torréfié, cette création est une ode à la gourmandise qu'elle vient souvent relever avec un peu de cardamome ou du piment d'Espelette. Avant de poursuivre, petite mise au point. Rappelons qu'à la base de la base, il y a la fève du cacao. Dans cette fève, on trouve une amande, et quand on broie celle-ci, on obtient une poudre de cacao. En faisant cela, on génère au passage de la graisse, c'est ça qu'on appelle le beurre de cacao, et finalement, la pâte de cacao, c'est ce qu'on fabrique à partir des fèves de cacao qui sont la base du chocolat. Laissons maintenant Marie nous parler de son aventure colombienne. Pour commencer, je lui ai demandé ce qu'elle avait dans le cœur en faisant ses valises.
À la base, j'avais simplement envie de partir loin et seule, me faire un grand voyage avec quelque chose qui pourrait m'instruire. Et donc, c'est assez naturellement que m'est venue l'idée de faire un voyage autour du cacao. C'est un produit que je consomme vraiment quotidiennement, malgré qu'il vienne de loin. Donc, j'avais vraiment envie d'aller à la source et voir comment il était produit, comment il était cultivé, par qui, comment. Et je suis donc partie en Colombie. Et j'étais accueillie par un atelier de chocolat qui s'appelle Tibito. Ouais. Dont le fondateur est Gustavo Pradilla. qui m'a gentiment accueillie au sein de son atelier. J'y ai travaillé avec les équipes pendant 2 semaines et c'était très sympathique.
Et donc Tibito, c'est une entreprise de chocolat voilà, qui a été créée en 2015. Toi, tu la connaissais déjà parce que tu consommais de leurs produits ?
Alors non, c'est assez bête, mais quand j'ai commencé à préparer mon voyage, je zonnais sur Instagram, comme beaucoup d'entre nous de nos jours. Et je suis tombée par hasard sur leur compte qui m'a attirée parce que j'aimais leur identité visuelle. Comme je ne pouvais pas le goûter parce qu'il n'est pas vendu en Europe et que du coup, j'avais aucun moyen de le goûter, je me suis dit, tiens, je vais faire confiance à mon attrait visuel et je vais les contacter pour savoir s'ils seraient intéressés d'avoir mes petites mains dans leur atelier. Et évidemment, je me suis quand même renseignée sur l'atelier. J'ai vu qu'ils travaillaient vraiment des origines différentes de fèves, donc de régions différentes en Colombie. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi énormément parce que ici, les fèves de cacao que je consomme sont souvent les mêmes. C'est ouais. Souvent d'ailleurs du Pérou. Parce que ici, les gens consomment très peu les fèves comme moi je le fais. Donc c'est difficile de trouver des revendeurs. Qui en vendent, et c'est difficile de trouver des fèves différentes. Donc j'avais vraiment envie de goûter aussi ces différentes origines, suivant les régions, les arbres, le climat, etc.
Parce que ce que tu racontes aussi dans les petits textes que tu as postés comme carnet de route un peu de ton voyage, c'est que les fèves de cacao ont des goûts qui peuvent être différents selon les régions, les climats en fait.
Exactement, exactement. Par exemple, chez Tibito, on travaillait une fève qui venait du Putumayo. Et elle avait vraiment ce goût de forêt très humide et très très intense, un goût très particulier qui, je pense, ne plairait pas à tout le monde. Et justement, on faisait une torréfaction très douce pour pouvoir garder ses arômes. Et c'est vraiment en bouche, c'était quelque chose de très mouillé, un goût d'arbre, d'arbre mouillé après la pluie, et vraiment fou. Enfin, j'avais jamais goûté. Un goût pareil dans le cacao.
Alors, peut-être que tu peux nous faire un petit récap des différentes étapes de traitement du cacao.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu la chance de visiter une ferme cacaotière bio à San Luis. Donc, exactement dans le village de Nilo, qui est au sud-ouest de Bogota. C'est un couple qui a ouvert ça il y a 7 ans, qui s'est lancé dans la culture bio de cacao, ce qui est assez rare. Et du coup, c'est une toute petite exploitation, donc c'était très chouette parce que j'ai découvert vraiment le process, mais à échelle humaine et dans le respect de la nature, ce qui, moi, m'importe quand même pas mal. Donc en fait, les cabosses poussent sur des arbres assez bas. Il faut savoir qu'une fleur sur 100 devient une cabosse. Et les cabosses sont de couleurs différentes. Il y en a des rouges magnifiques, un rouge rubis, il y a un jaune vraiment poussin, il y a plusieurs sortes de verts. Et en fait, la couleur ne dépend pas du tout du degré de maturité. C'est simplement des origines différentes, des origines d'arbres différentes.
Alors du coup, on va en profiter pour préciser ce qu'est une cabosse. Donc le cacaoyer, c'est un arbre tropical à feuilles et dessus on trouve des gros fruits, donc c'est ça qu'on appelle les cabosses.
Oui.
Ça fait entre 15 et 30 cm, il me semble avoir
exactement,
lu ça.
C'est énorme, j'étais assez impressionnée de l'énormité du fruit.
Ça peut peser jusqu'à 1 kg, 300
exactement,
grammes à 1 kg.
C'est assez lourd également.
Et en fait, c'est dans cette énorme cabosse qu'on trouve toutes les fèves de cacao.
Voilà. Environ 40, en tout cas pour la Colombie, l'exploitation en particulier que j'ai visitée, c'était 40 fèves par cabosse, qui est une grosse moyenne, parce que les chiffres officiels, c'est entre 15 et 40 fèves par cabosse.
D'accord. Et alors, tu as posté des photos de ces fameuses fèves qu'on trouve dans les cabosses.
Exactement,
c'est plus ou moins blanc, en fait, d'abord, quand on
Alors, en fait, quand on ouvre la cabosse qui est arrivée à maturité, on a accès à toutes ces graines, toutes ces fèves qui sont enrobées de leur mucilage, qui est un espèce de gel, en fait, qui les protège de la cabosse et de la fève même.
D'accord.
Donc, c'est un aspect un peu gélatineux, blanc. Qu'on peut. Alors, j'ai voulu goûter la fève, justement, fraîchement cueillie, non travaillée. Ça ne se mange pas du tout, c'est pas bon.
Ah ouais.
Mais par contre, le mucilage est pas mauvais. Donc, ce que je faisais, c'est que je suçais le mucilage autour et je recrachais la fève.
Mmh, d'accord. Ça avait quel goût, ce
mucilage ?
C'est
un petit goût de... C'est un petit goût fruité et laiteux en même temps. C'est particulier, mais c'est pas mal. On pourrait penser à un espèce de petit pudding de tapioca qui enrobe ses fèves.
Ah ouais, là, comme ça, ce que tu racontes, ça me fait penser à ce qu'on pourrait trouver dans le fruit du jacquier ou le durian.
Oui, alors...
C'est gros fruit exotique.
Encore plus un fruit que j'ai en effet goûté en Inde qui ressemble au fruit du jacquier. Et malheureusement, je ne me souviens plus de ce nom, mais c'est un petit fruit vert. Et quand on l'ouvre, c'est des pépins noirs enrobés de mucilage blanc. Et on mange ce mucilage qui est très bon, on dirait du lait concentré.
Ah, je vois de quoi tu parles.
Et en fait, ça ressemble à ça.
Oui, et on en a aussi au Vietnam de ce fruit. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle.
Moi non plus.
Ouais. Mais donc, il fait la taille d'une pomme à peu près, hein, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, ouais. On dirait une pomme de pin, verte.
Ouais, carrément.
Toute lisse, ouais, voilà.
Et d'ailleurs, ça peut être un peu pénible à manger parce que de temps en temps,
c'est très frustrant parce que c'est très bon, mais en fait, on doit recracher les grains à longueur de temps.
Ouais,
et pour le cacao, c'est un peu pareil. Malgré que comme les fèves sont plus grosses, finalement, tu mets une fève dans la bouche avec son mucilage, tu manges le mucilage autour et puis tu enlèves la fève.
Mmh, d'accord.
Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment une pratique qui se fait. Personne ne consomme le cacao comme ça. Bon, j'ai voulu tester, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais.
Donc, on prend la cabosse. On retire la quarantaine de fèves qu'il y a à l'intérieur.
Exactement.
Il y a donc à ce moment-là le mucilage, donc les fèves ont l'air blanches.
Oui.
Là, ce qu'on fait, c'est qu'on les pose.
Alors en fait, on va les mettre dans des espèces de bacs en bois, à l'abri du soleil, mais pas de façon totalement hermétique, malgré qu'elles soient quand même couvertes pour empêcher que les insectes y accèdent. Et en fait, on va laisser fermenter les fèves dans leur mucilage pendant plusieurs jours. Et le mucilage va progressivement se teinter de couleur marron. Alors ça va garder cet aspect visqueux. C'est pas très joli, d'ailleurs c'est pas très ragoûtant et d'ailleurs ça pue un peu. Pour être entré dans la salle de fermentation, c'est pas une odeur très agréable. Enfin, c'est une odeur de fermentation, donc pour les gens qui sont adeptes de la fermentation, ça va peut-être pas les gêner, mais c'est pas une. En tout cas, on n'a pas du tout l'odeur de cacao qu'on pourrait espérer.
Mmh.
Donc pendant plusieurs jours, ces graines sont donc fermentées et ensuite elles sont étalées sur des grilles sous une serre. Pour les sécher tout simplement, mais toujours avec ce mucilage qui a fermenté. Et elles sont séchées également dans ce mucilage qui va continuer à les protéger, en fait, à pouvoir garder les arômes de la fève.
D'accord.
Et ensuite, elles arrivent donc séchées mais crues, donc sous cette forme, dans les ateliers de chocolaterie, donc par exemple chez Tibito. Et c'est dans l'atelier qu'on les torréfie, donc dans une grande machine en forme de tambour qui tourne. Et on va les torréfier, en tout cas chez Tibito, c'était autour de 60, entre 60 et 100 degrés.
Ok.
Et entre une demi-heure et une heure, suivant les origines et suivant le goût qu'on voulait leur impulser.
Ouais.
Et alors là, c'est une étape qui est insupportable pour moi parce que ça sent vraiment terriblement bon. Et c'est assez impressionnant comme odeur.
Ouais. Et donc la torréfaction, on fait ça jusqu'à ce que la peau se retire facilement, c'est
exactement,
ça l'idée ?
Exactement, voilà, jusqu'à ce que la peau puisse se retirer très facilement. Et on la goûte en fait régulièrement pendant la cuisson, entre guillemets, pendant la torréfaction. Dès qu'on est assez content du résultat, on met ensuite ces graines torréfiées dans une machine qui va les dépelliculer et les casser en gruau de cacao.
D'accord. Alors, ce que tu racontais aussi, c'est que le temps de torréfaction, il dépend du résultat qu'on veut trouver. Il dépend aussi du type de fève.
Exactement.
Il n'y a pas de recette qui marche pour tout, quoi.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, quand on a affaire à un atelier pointilleux qui veut vraiment mettre en valeur les origines des fèves, il y a vraiment un travail de torréfaction. C'est vraiment une recherche au niveau de la température, du temps, etc.
D'accord. Ouais, donc on cherche vraiment à avoir la meilleure technique de torréfaction.
Exactement.
Selon le produit.
Ouais, ouais. Mais ça, c'est vraiment le cas pour du chocolat de spécialité, donc tel qu'est Tibito. Après, je pense que dans l'agroalimentaire de masse, je pense que la torréfaction doit être un peu plus intense pour toutes les mêmes fèves, pour donner justement un résultat similaire, un peu comme... c'est ce qui se passe avec le café, par exemple.
Ouais.
On donne une torréfaction très forte pour annuler en fait les arômes et donner un résultat similaire, ce qui donne ce goût un peu cramé au café de mauvaise qualité entre guillemets.
T'as eu la chance aussi de personnaliser des tablettes de chocolat, enfin en tout cas de préparer de quoi infuser des tablettes de chocolat.
Voilà, exactement. À la fin de mon stage chez Tibito, ils m'ont proposé de travailler des nouvelles recettes de chocolat. Donc pas des nouvelles recettes de chocolat de couverture, mais plutôt des recettes de tablettes finies de dégustation.
Alors attends, qu'est-ce que c'est exactement d'ailleurs le chocolat de couverture ?
C'est le chocolat... Alors le chocolat de couverture, c'est souvent présenté sous forme de pistole. Et c'est vraiment destiné à l'emploi des pâtissiers ou des... Il y a aussi certains chocolatiers qui achètent du chocolat de couverture et qui vont ensuite donc tempérer le chocolat pour donner des plaques de chocolat très belles, très lisses. Mmh. Et y ajouter des noisettes, des épices, plein de choses. Enfin, oui. En gros, un peu... pimper ce chocolat et pour en faire du chocolat de dégustation.
Mais d'accord.
Ce qu'on appelle le chocolat de couverture, c'est le chocolat qui est prêt à être travaillé. C'est-à-dire qu'il et son goût est parfaitement balancé, mais il n'a pas été tempéré, donc il n'a pas un aspect brillant. Souvent, les pistoles sont encore un peu mates.
D'accord, donc ce n'est pas encore un produit fini. Il peut encore être...
Il peut encore être travaillé, voilà.
Travaillé, ouais. D'accord. Et donc oui, raconte-nous les tablettes que t'as préparées.
Alors oui, donc, j'ai travaillé sur trois goûts de tablettes. j'ai fait une tablette avec des bananes infusées dans un sirop à la vanille et au sel.
Ça avait l'air génial, ça, ce truc.
Donc j'ai pris des bébés bananes qu'on trouve en Colombie qui ont un goût de fou. Enfin, elles ont un goût vraiment de caramel. Elles sont déjà délicieuses à la base. Et donc, je les ai infusées dans ce sirop et séchées à basse température pour les intégrer dans la tablette, vraiment en long. Donc, du coup, on avait en bouche ce côté chocolat autour de la banane et le moelleux de la banane parce que le fait de les avoir déshydratés à basse température, on gardait un peu le moelleux de la banane et c'était assez intéressant.
Ah ouais.
Avec une petite note salée, donc ça faisait un peu caramel salé, banane, chocolat.
Trop bien.
Et ensuite, j'ai travaillé des feuilles de menthe qui sont pas vraiment de la menthe. C'est une plante qu'on trouve là-bas, qui s'appelle la yerba buena, mais qui a vraiment un goût mentholé. Et celles-ci, je les ai cristallisées dans le sucre pour les intégrer au chocolat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple, mais je voulais vraiment qu'on garde les feuilles entières. À la différence du chocolat à la menthe qu'on trouve assez souvent, là, les feuilles de menthe restaient assez crispy en bouche. Et c'était aussi assez, assez chouette. Et j'ai fait un troisième test, mais qui n'était pas très convaincant, avec de la lavande et du citron. Mais la lavande que j'ai trouvée en Colombie était très amère. Et du coup, j'étais assez déçue du résultat. Mais... je l'ai associé à du citron, qui, pareil, n'est pas le même citron qu'ici. Donc, j'étais assez déroutée parce que la lavande et le citron, c'est quelque chose que j'adore ensemble. Et là, les deux n'avaient pas le goût que je connaissais.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Donc, le résultat n'était pas au top.
Du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été un séjour fort en émotion pour toi. Je trouve ça intéressant que tu sois partie d'abord... Enfin, la première raison, c'est pas forcément la découverte du cacao. C'est d'abord l'envie de faire un grand voyage seule. Et ensuite est venue l'idée du cacao.
Oui. Oui. Mais je pense que c'était peut-être aussi pour ne pas me retrouver seule, puisque le cacao, c'est quelque chose de tellement familier pour moi que ça me rassurait de partir à la rencontre de ce produit que j'ai l'habitude de travailler et de manger chaque jour.
Ouais, c'est comme un compagnon de route.
Voilà, exactement. C'est un peu mon aliment doudou, donc ça me faisait moins peur d'y aller pour ça. Et en fait, j'ai obtenu une bourse avec l'aide de Bruxelles, où je vivais avant, qui m'a permis de faire ce voyage autour du cacao et qui m'a du coup vraiment motivée à me faire un vrai parcours de rencontre avec les gens.
Et alors, dans ce voyage, j'ai l'impression que tu as fait une rencontre aussi... très marquante avec un certain Everardo, donc
oui.
Un vieux monsieur de 85 ans qui a un seul cacaoyer.
Exactement, ouais. Rencontre géniale. C'était au début de mon voyage. J'étais vers la frontière du Panama, à Capurganá.
Dans une région qui s'appelle la région du Choco, ça
voilà,
vaut pas,
exactement,
ça.
La région du Choco. Je me suis dit que j'allais commencer par ça. Ça m'inspirait pas mal. Et en fait, en me baladant dans cette réserve naturelle qui s'appelle El Cielo, qui est vraiment, vraiment, qui va jusqu'à la frontière du Panama, justement. Je suis tombée sur ce vieux monsieur par hasard, sur la, en fait, son portail donné sur la route que j'empruntais. Et sur son portail était marqué vent, production locale, bio, etc. Et il était là, assis à sa table de jardin. Et en fait, en voyant que je m'arrêtais, il est venu à ma rencontre. Et du coup, il m'a ouvert la porte de son jardin enchanté. Et il m'a fait visiter donc sa mini-exploitation. Et donc, il avait en effet un cacaoyer. Quand j'y suis passée, il y avait une cabosse sur l'arbre. Et il produisait quand même sa massa de cacao. Donc, il faisait lui-même fermenter ses quelques fèves. Il les broyait avec les moyens du bord, au mortier. Et par contre, malheureusement, son cacao n'avait pas beaucoup de goût. Donc, il faisait la massa avec beaucoup de cannelle et de clou de girofle. Mmh. Et donc, il présentait sa massa qu'il vendait comme ça en forme de petite boule. Donc, je lui ai acheté quelques boules qui étaient en fait impossibles à travailler. Enfin, finalement, je l'ai râpé sur mes petits déjeuners.
Ah oui.
Pendant tout mon séjour, j'ai eu un stock de boules. Mais finalement, ça sentait plus le clou de girofle et la cannelle que le cacao. Mais j'étais hyper contente d'avoir ça, de me dire que j'avais acheté ça à ce petit monsieur. Très charmant.
Ouais, il t'a suivi un peu pendant le reste de ton séjour,
exactement,
quelque part.
Voilà. Et c'était du coup ma première découverte cacao sur place.
Ouais.
Donc avec cette mini production et cette personnalité incroyable, j'étais très contente d'aborder ce fruit par cette rencontre.
Ouais, c'est probablement donc l'exploitation la plus petite du pays.
Et, oui, je pense. Oui, je pense vraiment.
Tu dis un moment dans un des textes que tu as publié que donc ça a été un séjour hyper riche en émotions et que tu as même pleuré, en fait.
Oui, oui, j'ai beaucoup pleuré. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas voyagé seule. Et je crois que je me suis sentie vraiment seule quand même.
Ah, donc t'as pleuré plutôt de tristesse à certains moments.
Mais en fait, j'ai eu un petit down quand j'ai quitté la région du Panama, enfin la région à la frontière du Panama qui était magnifique, et que je suis arrivée à Bogota dans cette énorme ville qui m'a fait un peu peur et qui m'a mis un peu le bourdon au début. Cette ville est vraiment énormissime. On peut la traverser en 4 heures de route, tellement elle est énorme. Je crois qu'elle fait 10 fois Paris. Et je vivais dans un quartier pas très sexy, où on m'avait vraiment recommandé de ne pas sortir le soir, la nuit, sachant qu'il faisait nuit à 17 heures. Et à Bogota, il y a un climat assez spécial, où parfois c'est très lourd dans l'air, c'est très orageux, le ciel peut être très bas. Et j'ai eu ça vraiment la première semaine. Donc, à ce moment-là, oui, j'ai beaucoup pleuré. Mais donc, c'était un peu de tristesse. Et en même temps, je crois que j'avais besoin de ça pour me faire grandir et me dire aussi que j'étais encore capable de voyager toute seule. Mmh. Mais bon, rien de méchant, hein, quand je dis que j'ai beaucoup ri et beaucoup pleuré, j'ai surtout beaucoup ri.
À son retour, Marie a continué à râper de la massa sur ses petits déjeuners, ou plutôt du chocolat 100%, ce qui est le truc qui se rapproche le plus de la massa trouvée là-bas. Après avoir arrêté mon enregistreur, on a continué à discuter de cacao et de chocolat. Marie m'a parlé de la mousse au chocolat végétal, qu'on réalise avec du jus de conserve de pois chiche, parce qu'une fois émulsionné, ce jus se transforme en une matière proche des blancs en neige. J'ai aussi profité d'avoir Géraldine Pellet avec moi pour lui demander ses chocolatiers préférés. Elle m'a parlé de Patrick Roger et de Pierre Marcolini, mais aussi Bello et Angeli que l'on trouve à Toulouse, Plaque Chocolat qui se trouve à Paris, rue du Nil, et propose du Bean to Bar, autrement dit du chocolat fait directement à partir des fèves, et de Raw Chocolate qui vend du cacao cru. Merci à Marie Vial et à Géraldine Pellet de nous avoir donné de leur temps pour parler de chocolat et de cacao. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari. monté et mixé par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!